Ce matin, je propose à lire un passage en Proverbe 13, verset 12. Avant ça, on va prier. Proverbe chapitre 13, verset 12. Proverbe 13, 12. Ok. Prions. Un jour dans tes pavés, Seigneur. Un jour dans ta présence. Un jour, Seigneur, avec toi. Un moment avec la vie éternelle. D'être dans tes pavés. D'être debout devant toi, devant Christ, tout le jour de nos vies, pour éternité. Merci, Seigneur. Merci, on peut rester. On peut reposer. Nous sommes des troupeaux. Nous avons besoin de repos. Merci pour la joie d'être réunis. Merci pour la vision, la réalité spirituelle, les choses qui passent dans notre assemblée, la vie que nous expérimentons. Merci. Parle à nous, s'il te plaît, Seigneur. Communique une vérité spirituelle ce matin. On veut écouter, on veut recevoir. Merci, Seigneur, de conduire ce message. Touche nos cœurs. Nourris-nous. Merci. Amen. Un verset que j'ai entendu en 2009 d'un pasteur qui est en train de visiter notre église pendant un moment un peu mouvementé, un peu bouleversant. Et j'ai médité sur cette verset, j'ai réfléchi sur cette verset longtemps. Proverbe 13, verset 12. « Un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. » Et le mot « mais » on peut remplacer dans cette inversion. Quand le désir arrive, c'est un arbre de vie. Je propose d'entrer dans une illustration pratique pour expliquer cette verset. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. On ne va pas lire entièrement le passage. Nous avons un homme en Israël. C'est pendant la période de juges. Juste avant le passage entre les juges et les rois. Donc nous avons presque le dernier juge. Nous avons un pays troublé par la corruption. Élie, elle était le sacrificateur dans le tabernacle. Dans cette période, juste pour illustrer un peu plus le contexte, le temple n'était pas construit à ce moment. C'était le tabernacle à Silo. Donc le tabernacle était placé là dans cet endroit. Et tous les Israélites voyagent pour arriver à Silo pour donner les sacrifices, pour observer les fêtes juives. Lévitique chapitre 23, je pense, parle de les sept festins juifs. Juste pour une parenthèse, il faut savoir, pendant le millénium, on va voyager à Jérusalem pour le festin juif. Quel espoir! Le joie que nous expérimentons maintenant est rien, rien de le moment que nous sommes devant Christ lui-même à Jérusalem, dans le tabernacle, pour le millénium, cette fois, chaque année, pour les festins, pour observer. Mais je ferme la parenthèse. Un homme marié avec deux femmes, Elkina, marié avec deux femmes. Déjà ça, c'est compliqué. C'était jamais la volonté de Dieu. Jésus lui-même dit, dans le commencement, il est l'homme et femme. Il parle d'un homme avec une femme, et il parle de mariage dans ce contexte. Un homme avec une femme. Pas un homme avec trois femmes, ni deux femmes. Je peux dire en rigolant que un mariage est déjà, on peut dire, un défi, un joie. Mais de marier, et pourquoi pas si on entrait dans cette parenthèse, une femme avec trois hommes. Voir la folie de sauter de la volonté de Dieu. Et dans cette illustration d'expliquer, les deux femmes sont en tension entre les deux. Anne s'appelle en hébreu grâce. Elle était favorisée. Elle était préférée. Et Penina, qui parle d'un rocher précieux. Il y a une jalousie parce que Anne était préférée par son mari. Et bien sûr, elle a reçu une double portion. Pendant chaque fois qu'il voyage pour ses festins et pour le sacrifice dans le tabernacle. Donc, déjà nous avons une femme jalouse que l'autre femme. Voir qu'est-ce qui peut passer dans un monde normal, mais dans un monde un peu dans cet côté, les choses, le péché augmente. En plus, suivre le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Mais d'ajouter un élément. Anne était stérile. Anne était stérile. Elle ne peut pas avoir des enfants. Mais l'autre femme, elle a plusieurs enfants déjà. Et en Israël, ce n'est pas comme nous avons maintenant dans notre société occidentale. Pour nous, les gens sont tellement individuels que nous pensons, oui, ce n'est pas un problème, je vais faire des autres choses, je vais trouver des autres solutions. Mais en Israël, dans cette époque, il n'y a pas des autres solutions. Donc, elle était stérile. Et en plus, le Seigneur a amené Anne stérile. C'est comme il a placé elle dans une situation où elle ne peut pas sortir. Donc, la stérilité, ce n'est pas lié avec elle, c'est plutôt Dieu qui a permis quelque chose. Donc, elle était peut-être pour des années en train de pleurer, de souffrir. Elle a attendu des années, probablement en priant. Probablement parce que dans cette époque, c'était une honte. C'est la honte pour une femme et pour une famille. Parce que les descendants sont tellement importants. La généalogie juive était tellement importante. Pourquoi que nous avons tellement de généalogie dans l'Ancien Testament? Pourquoi que Paul, c'était tellement important de lui de citer son généalogie et de savoir ceux qui sont avant lui? Donc, c'est de savoir que c'était tellement important. Donc, le premier point, en attendant, avec aucune indicateur de l'avenir, un espoir déferré rend le cœur malade. Elle était troublée dans son âme et particulièrement dans son cœur, et donc les émotions, les sentiments, les questionnements. Est-ce que nous avons expérimenté ça? Est-ce que nous avons, imaginons dans sa place, est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis maudit? Les questions arrivent dans nos têtes et nos pensées. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis dans le péché? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que tu es en colère avec moi? Quand je prie, est-ce que tu m'entends? Et nous pouvons être avec la honte devant les autres. Parce que chaque année, ou peut-être dans le voisinage quotidien, les gens posent la question, comment tu vas, Anne? Et peut-être avec tristesse, elle dit, oui, ça va. Mais elle cache énormément de culpabilité, peut-être. Et l'autre femme orgueilleuse, jalouse par le favoritisme d'être préférée, amène une pression plus dans la relation, dans cette relation compliquée. Jalouse, elle amène plus de pression. C'est comme elle aime de voir l'autre en train de souffrir. Donc elle amène plus de couches, plus de pression. Donc ça continue pour des années, des années, des années. Un jour de souffrir avec quelque chose est une chose. Mais 5 ans, 10 ans, jour après jour, on aime quand une nuit termine. Le termine, la fin d'une nuit, on veut dire, on pleure pendant la nuit, mais le jour, il est la joie. Et c'est vrai, des fois on peut dire, comme Marc a parlé, on passe une semaine horrible, et on dit, oh, Seigneur, je veux voir la fin de cette semaine, et je veux voir quelque chose de nouveau. Donc on passe d'une semaine, d'une autre, et de wow, ça c'est mieux. Mais ici, sans cesse, la souffrance, sans cesse d'être déprimé, sans cesse. Qu'est-ce qu'on peut voir? Quand quelqu'un est troublé dans le cœur, ça affecte le corps physique aussi. Le comportement de quelqu'un en train de, peut-être en déprimant de plus en plus, peut-être elle ne peut pas regarder les gens face à face. Peut-être elle baisse sa regard parce qu'elle ne peut pas voir comme nous. Nous pouvons regarder avec les yeux. On peut regarder l'autre dans les yeux. Mais peut-être elle ne peut pas le faire. Parce qu'elle a cette attitude, cet état. Elle est tellement épuisante. Avec cette dépression, la fatigue, une inhabilité, une incapacité de fonctionner. Donc, il continue comme ça. Si on continue et arrête ça, on va dire, c'est tellement déprimant. Pasteur, est-ce que tu peux arrêter et prêcher quelque chose d'autre? Donc, mais la chose, on va dire, c'est le début de quelque chose. Et on passe le temps de prier et demande les autres de prier. Et on pense, s'il y a 10 personnes en train de prier pour moi, ça marche. Dieu peut-être, il a des oreilles, il va coûter plus 10 que 1. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a un déclenchement dans la vie. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est en train de passer. Pour le Seigneur, ses voix en Ésaïe 55, verset 8 et verset 9 sont plus hauts que nos voix. Et ses pensées plus hauts que nos pensées. Et nous avons nos idées. Seigneur, fais ça. Pourquoi? David, la même chose. Pourquoi que je suis dans un tel... Je suis au bout du monde, en fait. Devant le même hôte. Et je ne vois rien en train de passer, mais un vieil homme ma oint dans le passé devant mon père et mes frères. Et maintenant, je suis chassé par le roi. C'est une histoire dingue. Mais s'il retourne à cette position, elle était bloquée. Elle ne peut pas sortir. Mais le Seigneur est la solution et la raison qu'elle était stérile dans sa vie est parce que le Seigneur a un plan. Donc, la première chose, le cœur est malade. Mais la clé est quelque chose d'admirable de cette femme. Elle n'a pas accepté de vivre ça. Elle était déprimée. Mais elle a dit, je ne vais pas laisser abandonner ma foi. Je vais être toujours à la festin. Je vais continuer. Et en 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 11, pendant le moment où ils sont devant le tabernacle, elle a décidé de sortir de le groupement de famille et entrer pour prier. Elle était poussée dans un moment précis. On passe des années et des années et des années, rien ne passe. À la fin de l'Apocalypse, juste pour donner une référence, viens, Maranatha, viens, Seigneur, viens vite. Et ce n'est pas de dire tout de suite, il vient. Ça veut dire quand il vient, il vraiment vient. Et quand c'est le moment, on va dire, « Oh, Seigneur, c'est trop rapide. » Sa délivrance prend le temps, mais quand c'est déclenché, on dit, « Oh, c'est comme, je peux pas supporter la rapidité de l'action du Seigneur. » Elle arrive dans le tabernacle et elle est en train de prier. Avec les lèvres ouvertes en train de bouger, mais aucun bruit, aucune parole sort. Pas de bruit. Élie, le sacrificateur, un homme âgé, on peut décrire beaucoup de choses de lui, il a supporté son fils qui sont corrompus, pervers. Ça, c'est une chose. Mais il a regardé cette femme. Il était toujours le sacrificateur. Donc, le Seigneur toujours utilise le sacrificateur, malgré ses fautes. Il est là. Elle est en train de prier. Il n'entend rien. Et il dit, pourquoi que tu fais ça? Elle était tellement remplie. Elle doit déverser toutes les frustrations, toutes les émotions sur le Seigneur. Elle ne peut pas garder ça. Le cœur est déjà malade, donc on ne peut pas garder les souffrances. On doit apporter à lui. Et ça, c'est la clé. Elle a fait ça. Et lui, il a regardé, il a dit, pourquoi, femme, que tu es ivre, arrête de boire l'alcool. Tu es tellement ivre, c'est clair, parce qu'il n'a pas compris la souffrance. On est placé dans une situation des fois que personne ne peut comprendre. Notre chemin avec le Seigneur est un chemin ensemble. C'est pourquoi que nous sommes dans cette salle ce matin, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une communauté, il y a une notion, le corps de Christ n'est pas des individuels seuls, c'est ensemble, de marcher ensemble. Mais chaque appel, chaque personne vit seul devant Dieu et personne ne peut excuser et dire, voilà, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mon ami. Le Seigneur dit non. Acceptons la responsabilité de marcher seul devant moi. Bien sûr, ensemble, mais il y a une notion de solitude dans nos âmes quand on est devant le Seigneur et on ne peut pas exprimer les choses qu'on vit. On ne peut pas exprimer les difficultés. Ce n'est pas possible de communiquer. Ici, on communique. Personne ne va comprendre. Bien sûr, on peut soutenir, mais ça veut dire Dieu veut qu'on approche à lui et on dit, Seigneur, je suis devant toi, personne ne peut comprendre. Je sais les autres même, mais je vis ce moment individuellement devant toi. Elle est en train de faire ça. Elie commence à juger. Facile pour nous de juger, n'est-ce pas? Je vois quelqu'un et je dis, ah, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Non. Mes paroles doivent être peu dans le monde. Parce qu'il est là. Le roi. Lui-même dans le temple. Donc si Dieu est en train de regarder, peut-être je dois arrêter de parler trop, de juger les autres. On est en jugement continuel. Et on voit les autres et on tout de suite saute dans la situation. Un homme et une femme de Dieu mûr est quelqu'un qui peut prendre un peu de recul et regarder la situation et ne pas sauter tout de suite. Mais, bien sûr, conduit par le Saint-Esprit. Mais de regarder, ok Seigneur, comment je peux aider cette personne? Et bien sûr, de discerner si c'est quelque chose, le malin qui est en train d'opérer. Mais ça veut dire, on n'est pas là pour juger, on est là pour discerner, on est là pour aider. Le jugement détruit, mais le discernement édifie. Le discernement aide la personne parce qu'on constate une situation, mais on ne juge pas la personne. Elle est en train de juger. Donc, une couche plus sur une femme qui a tellement de souffrance. Et qu'est-ce que se passe? J'arrive dans le tabernacle et je suis jugé là par un homme religieux. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais elle était courageuse. Et des fois, on doit accepter, ok Seigneur, personne ne me comprend. C'est des choses qui passent, c'est vrai, mais je suis persévérant. Je ne veux pas être chancelé. Je vais continuer avec le Seigneur malgré mes émotions, malgré les années. Je ne vais pas abandonner mon Seigneur parce qu'il est avec moi. Je ne comprends pas ce qui passe, mais je sais qu'il est pour moi. Il n'est pas contre moi. S'il n'est pas contre moi, il est pour moi. Qui peut être contre moi? Qui peut être contre lui? On n'est pas séparé de son amour. Et donc, le plan de Dieu va maintenant être déclenché. Qu'est-ce que c'est? Elle est poussée de prier et les choses qui passent. Le Seigneur écoute. Elle est en train de prier, le Seigneur est en train d'écouter. Elle dit, écoute, Seigneur, je ne peux rien faire. C'est devant toi maintenant. Je suis des années dans cette situation. Et donc, elle décide de faire un vœu devant le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si, Seigneur, tu écoutes ma prière et si tu exauces ma prière, tu vas donner un fils. Et on va prier pour ça. Peut-être c'est important des fois de préciser les choses dans nos cœurs. Seigneur, ce que je veux dans mon situation, dans mon fils, mais quelque chose d'extraordinaire et admirable plus. C'est dans notre chair de demander quelque chose. C'est dans notre esprit, dans notre, on peut dire, notre vie spirituelle, dans notre nouveauté, on peut demander légitimement des choses. On dit, Seigneur, donne ma fille, donne un travail, donne une fille, donne, je ne sais pas, on a une liste de choses, on peut passer des années, sauve mon père, sauve mes parents, sauve mon mari, sauve ma femme, fais quelque chose dans ces vies qui peut être bouleversé et marche avec le Seigneur de nouveau. Et on prie, on prie, on prie. Mais il y a quelque chose de plus. Il n'a pas dit, je vais garder pour lui-même. Parce que ma chair veut toujours garder les bénédictions pour moi. Voir, ce n'est pas notre nature. Le Seigneur nous bénit et on est dit, Amen Seigneur, mais on garde pour nous-mêmes. Ce n'est pas la vie spirituelle. Elle a dit, je vais donner et consacrer mon fils afin qu'il va être avec toi pour l'éternité, afin qu'il va servir le Seigneur. Ça, c'est admirable pour une femme déprimée, une femme qui peut être écrasée par les choses. Elle a dit, je vais consacrer ma femme. Si tu exauces ma prière, tu vas donner un fils. Je vais redonner. Dans notre Bible, c'est de prêter. Je vais prêter mon fils à toi. Samuel, ça c'est son nom. Il va redonner au Seigneur. C'est extraordinaire. J'ai un besoin, je vois quelque chose, mais mes bras sont ouverts. Ça c'est le prochain point. Ses bras sont ouverts. Sous le quoi? Les bras ouverts. Ça veut dire qu'il ne peut pas garder les choses pour lui-même. Il a ouvert ses bras afin qu'il ait un accès pour chacun de nous. Et nous, on peut avoir des bras ouverts dans notre situation. Notre nature est de garder des choses pour nous-mêmes. Je veux avoir un mari ou je veux avoir une femme. Et c'est ma voilà, on va garder jalousement. Non, chaque être est devant Dieu. Sauvé ou pas sauvé, on est redevable devant lui et on ne peut pas empêcher quelqu'un d'autre. On va laisser les libertés pour chaque personne d'être devant lui, d'accepter, on espère, lui, d'être sauvé. Mais lui, elle a laissé les bras ouverts. Ok, Seigneur, il lui donne tes mains. Je te laisse à toi, c'est toi qui vas diriger sa vie. Et Élie a dit que le Seigneur écoute ta prière qui va exaucer ça. Il ne sait pas qu'est-ce qui va passer, mais il veut. Ok, Seigneur, le Seigneur est écouté. Ok, qu'est-ce qui va passer? Et maintenant, nous avons quelque chose d'extraordinaire. L'arbre de la vie. Je vais juste donner une parenthèse. L'arbre de la vie dans le jardin Éden était un arbre pour l'homme de manger le fruit, donc l'humanité dans le jardin pour manger et de vivre parce que c'est un fruit qui va donner la vie. Et quand, après le chute, Jésus a dit, on va mettre une épée avec les chérubins pour garder le chemin afin que l'homme et femme qui ont mangé cette fruit et spirituellement ils meurent, ne peuvent pas retourner de manger le fruit pour renverser ce qui a passé. C'est intéressant. Pourquoi il a fait ça? Parce que si on peut vivre sans lui pour l'éternité, ça va être une horreur. Bien sûr, comme lui, avec une individualité de voir la différence entre le mal et le bon, mais de séparer de sa vie, imaginons ça, c'est horrible. Et donc, l'arbre de vie est mentionné souvent dans la Bible. Et le dernier est dans la fin de l'Apocalypse, chapitre 22, qu'on peut avoir accès de nouveau. Pour ceux qui croient, on va être devant lui et on va manger cette fruit. Et on va vivre, continuer de vivre devant lui. Donc c'est pour la guérison des nations aussi, pendant le millénaire. Mais ici, on est référence de quelque chose de différent. Après, elle a prié. Bien sûr, la relation avec son mari. Et le Seigneur, il ouvre sa ventre. Et elle peut avoir un enfant. Elle avait un enfant. Donc, un résultat, une conséquence, après ces années, Samuel était né. Elle a consacré Samuel pour le Seigneur. Joie, le commencement de chapitre 2 est comme un psaume de... En fait, c'est comme un psaume de vraiment joie. Le Seigneur a entendu ma voix, le Seigneur est là, le Seigneur est ma délivrance. Joie qu'elle est sortie de cette déprime, état de déprimement pour maintenant d'être avec Dieu, d'avoir cette position sur une roche et dire, Seigneur, merci, tu m'entends, maintenant je peux comprendre. C'est parce que le Seigneur est en train de travailler. Parce que s'il a fermé sa ventre, c'était pour une raison importante. Et ça, c'est l'arbre de la vie. Samuel va être le dernier juge d'Israël. Samuel va remplacer Élie, le sacrificateur. Donc, il a servi devant le Seigneur. Il a honoré le Seigneur. Élie est mort. Maintenant, il est le sacrificateur. Et sa maison était préparée par le Seigneur. Le Seigneur a honoré sa vie. Si on garde les bénédictions quand le Seigneur nous bénit, notre vie est tellement petite. J'ai ma vie, j'ai ma bénédiction, le Seigneur m'est fidèle. Oui, et pour les autres. Parce que quel est un arbre de la vie? Ce n'est pas pour moi. C'est pour le nourrir les autres. Le fruit est là pour manger. L'arbre d'un pommier ne peut pas manger les pommes, n'est-ce pas? Un pommier doit laisser les autres de ramasser les pommes et manger pour eux-mêmes. C'est pour le plaisir de quelqu'un d'autre. Nous sommes un arbre de vie. Nos fruits sont en train d'être poussés, en train de pousser maintenant, et peut-être là pour quelqu'un d'autre. Diego est en train de travailler, produit les fruits de patience et amour. Et les gens mangent de ça et ils sont rassasiés. Je vois l'amertume, mais je vois quelqu'un avec un autre esprit. C'est pour chacun de nous, pas juste pour Diego. C'est parce que nous sommes un arbre devant le Seigneur. On est un olivier verdant devant lui et on pousse les fruits jour après jour. C'est prendre le temps parce qu'il y a une maturité pour le croyant. D'être raciné dans la place que le Seigneur a décidé. Mais notre souffrance qui est tellement amère peut être après un goût pour nous et un goût pour les autres. Et donc pour elle, elle a donné, Anne a donné Samuel pour servir le Seigneur. Et lui, il va être lui qui oint Saul et David. Donc son ministère établi par le Seigneur était un ministère pour le bénéfice d'Israël. Un arbre de la vie pour les autres. Un arbre de la vie qui est un témoignage pour Anne. Parce qu'elle peut dire, dans ma détresse, je criais dans un trou. Et le Seigneur m'entend ma voix. Il m'a placé dans un endroit sûr. Psaume 40. Je suis un homme pauvre. Mais le Seigneur m'entend, il écoute et il m'exauce ma prière. Jérémie, dans un puits, ne peut pas sortir en prison. Et il tourne vers le Seigneur et le Seigneur enlève Jérémie de cette détresse. Et c'est le même pour Anne. Et si c'est le même pour Anne, c'est le même pour nous. Nous avons des témoignages, n'est-ce pas? Et on témoigne de la fidélité de Dieu. Mais notre témoignage n'est pas un témoignage d'un moment fixe. Des fois, on répète la même histoire, et c'est bien. Mais de savoir que notre témoignage est en permanence, parce que notre vie est en permanence dans une relation vivante. Et donc, quand on parle de choses nouvelles qui passent. Donc un arbre de la vie. Le cœur malade est maintenant replacé par un esprit de joie. Et c'est le Seigneur qui peut le faire. Et je répète, juste pour répéter, juste pour amplifier le point. Si on garde les bénédictions pour nous-mêmes, c'est pour nous-mêmes seuls, pas pour les autres. Mais si on ouvre nos bras, si on dit « Samuel est pour le Seigneur pour l'éternité », qu'est-ce que s'est passé pour Anne? Elle peut dire « Oui, mais j'ai reçu une bénédiction. J'ai reçu ce que mon cœur a désiré, un fils. » Mais après, on peut voir qu'elle a reçu de le Seigneur 3 fils et 2 filles, plus que Samuel. Donc, sa vie était fructueuse. Elle était plus stérile. Ça veut dire, c'était pas une question d'un fils. Voir, c'était tout Israël. Et c'est une joie pour elle parce qu'elle peut avoir des autres enfants. Donc, sa vie n'a pas arrêté là, c'est continué. Et quel est le témoignage que je peux donner? Le Seigneur est toujours fidèle avec moi. Ça, c'est notre vie. Si on veut, ça, c'est la raison qu'il y a un parfum agréable dans cette assemblée. Parce que nos vies sont consacrées pour lui et nous avons désir de marcher devant lui pour l'éternité. Et on est en train d'être transformé. Donc l'amertume, la dépression peut être utilisée par le Seigneur pour amener quelque chose de précieux. Un parfum agréable devant le Seigneur. Acceptons que des moments comme ça sont pour la gloire de Dieu. Pas pour nécessairement parce qu'on est dans le péché, pas parce qu'on a fait quelque chose de fautif, pas parce qu'on a pris une mauvaise décision. Simplement, des fois, c'est pour la souveraineté de Dieu, pour la gloire de Dieu et pour le salut de plusieurs. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour la parole ce matin et merci parce que nos vies peuvent exprimer. Nous sommes un arbre de vie. La vie sort, pas l'hypocrisie, pas la malédiction, pas le douleur, mais la vie sort, Seigneur. Et on est en repos, on a la joie, on est toi, Seigneur. Sois glorifié. S'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de toi, qui parle dans ses cœurs et demande au Seigneur, pourquoi, Seigneur? C'est toi, Seigneur, qui peux parler individuellement dans la situation pour combler, pour aider, pour donner une sagesse pour diriger, parce que tu m'entends les cris de nos cœurs, Seigneur, nos cœurs malades. Merci, Seigneur, un Dieu fidèle qui nous aime. Bénis cette assemblée et ce dimanche. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.